Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Ici, celles et ceux qui n'arrêtent pas de nous répéter que l'histoire ne se répète jamais, se trompaient. Et si le pire du XXe siècle ressuscitait là, aujourd'hui ou demain, dans un futur proche, c'est-à-dire la montée des populismes, le fascisme banalisé, l'obsession identitaire qui conduit à des épisodes qu'on a déjà connus, c'est-à-dire la chasse aux juifs et aux métèques. Dans un roman noir d'anticipation, Denis Lachaud imagine une administration française qui demande aux Français dont les parents ou les grands-parents ont francisé leur nom lors de leur naturalisation de reprendre leur patronyme d'origine. Voilà, voilà, que ça recommence, comme chantait le regretté Rachid Taha. Les métèques de Denis Lachaud, mon invité ce matin, est édité par Actes Sud. Et en deuxième partie, Auriane Jeancourt du magazine Transfuge viendra nous conseiller d'autres romans pour accompagner votre été.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Denis Lachaud.
Bonjour.
Les métèques, c'est le titre de votre roman et on apprend vite qu'il renvoie à une famille française qui vit dans le sud de la France. Les RB, le père, la mère, l'aîné Célestin et le narrateur du roman, il a 20 ans. Sa sœur Isolde est une ado passionnée de karaté et puis le plus jeune Rico, lui, est un addict aux jeux vidéo. Bref, une famille normale. Le milieu social, on dira moyenne bourgeoisie puisque ils habitent les quartiers sud de Marseille, la Pointe Rouge, si ça vous parle, c'est-à-dire petite maison avec jardin et la mère qui n'est pas un poster. Tout va bien jusqu'au jour où les RB au grand complet sont convoqués à la préfecture de police. Et là, j'ai commencé à dire pourquoi, hein, puisqu'on leur demande de récupérer le patronyme de leurs grands-parents.
Oui, on leur demande sans leur demander, c'est pas très clair. Mais on sent bien, disons, dans la famille, on sent bien que même si c'est juste une proposition, il y a une certaine autorité qui est sous-tendue quoi, dans cette proposition.
D'autant plus qu'ils sont tous convoqués au grand complet.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut manquer l'école pour les plus petits, il faut manquer l'université pour le plus grand, le travail pour les parents. Il faut venir à la préfecture.
Et le plus grand des trois enfants, enfin l'aîné, je me trompe pas en disant le plus grand puisqu'il mesure près de 2 mètres, Célestin, lui qui est tout à la fois le narrateur du roman et le personnage central d'une tragédie qui va se jouer, lui il sent le danger.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, on se demande si ça recommence. Et Célestin, il lui arrive ce qui m'arrive à moi un peu en ce moment, c'est-à-dire le sentiment d'avoir perdu tout filet. C'est-à-dire que maintenant, si on fait des sauts périlleux en l'air, il n'y a pas de filet en dessous, quoi. On ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est un peu le sentiment que j'ai et c'est le sentiment qu'acquiert Célestin pendant ce rendez-vous à la préfecture de Marseille.
Et l'idée de départ, c'est quoi? C'est un lendemain de résultats d'élection, Denis Lachaud. D'où vient cette histoire? Comment est née les métèques?
Ah non, ça a été beaucoup plus progressif que ça. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur le sort que nous réservons aux migrants qui arrivent chez nous. Et ça, c'était au théâtre. Et puis, par ailleurs, il m'est arrivé d'accompagner des survivants de la Shoah dans des lycées ou des collèges quand ils venaient parler aux lycéens ou aux collégiens. Et là, j'ai découvert qu'il y en avait pas mal qui étaient un peu dépressifs parce qu'ils avaient le sentiment que ça recommençait. Donc, ça m'a aussi pas mal travaillé, cette histoire. Ça a attiré mon attention, justement, sur les petits indices de choses qu'on a déjà vues ou qui sont pas exactement évidemment similaires, mais qui peuvent rappeler comme ça des phénomènes qui se sont déjà mis en place insidieusement pour déboucher sur des choses assez terribles.
Et c'est pour contredire un peu tous ces intellectuels qui n'arrêtent pas de nous dire que l'histoire ne se répète jamais et qu'il faut cesser de jouer à se faire peur.
Non, moi, mon propos c'est pas de contredire les intellectuels ni même d'aller dans leur sens. Je pense que moi je suis plutôt du côté des artistes et donc les intellectuels m'intéressent quand ils font leur travail et je me soucie pas trop de ni les contredire ni aller dans leur sens.
Oh, mais Denis Lachaud, c'est pas un roman juste littéraire, c'est un engagement politique que cette fiction.
Bon, écrire des romans c'est un engagement politique de toute façon à mon avis, mais au moment où on écrit, enfin en tout cas moi je vais parler pour moi, hein, au moment où j'écris, il s'agit de littérature. Évidemment, les sujets sur lesquels je travaille, puisque je vais quand même y passer 2 ou 3 ans, c'est des sujets qui me travaillent suffisamment pour que j'y passe 2 ou 3 ans. Maintenant, au moment où je m'y mets, J'explore, j'essaie de répondre à des questions que je me pose, que l'écriture me serve à moi aussi, en fait.
Direz-vous que c'est un roman d'anticipation ou ça peut se passer vraiment aujourd'hui ?
C'est-à-dire que, j'ai vraiment sciemment décrit la vie de mes personnages de façon très contemporaine. Il n'y a aucune science-fiction dans l'histoire, il y a juste... cette histoire de proposition de reprendre le patronyme d'origine qui est de la fiction totale pour l'instant en tout cas et puis deux trois éléments on parle de milice, il y a des mots comme ça qui reviennent et qui pour l'instant sont pas encore trop d'actualité, mais à part ça c'est vraiment le monde d'aujourd'hui. Et moi j'ai pas mis de date, c'était aussi tout à fait volontaire. Je voulais pas donner le sentiment qu'on était dans le futur. Je voulais pas donner le sentiment forcément très très arrêté qu'on était dans notre présent, puisque j'essaye de travailler sur la limite comme ça entre plusieurs choses, et notamment le sentiment que on est dans le réel ou qu'on est complètement dans une fiction construite. Par le fait que c'est un personnage, le narrateur, on ne sait jamais exactement si vraiment les choses sont avérées ou s'il se trompe, s'il rêve un peu, s'il délire un peu.
S'il invente des histoires.
Voilà, donc voilà, en même temps, c'est des intérêts pour moi de l'écriture de fiction.
Quand la famille Herbé est confrontée au passé des parents, aux racines des parents, donc du côté du père, ils savent que c'est une famille juive, mais ils vont découvrir, et ça c'est quelque chose d'assez original, ils vont découvrir que leur mère leur a toujours caché ses origines arabes ou maghrébines.
Tout à fait, oui. Ça me paraissait intéressant qu'il y ait deux aspects, c'est-à-dire que d'un côté, même si tout le monde est d'origine étrangère, puisque les grands-parents paternels sont pour l'un polonais et pour l'autre la grand-mère allemande, du côté de la mère, une famille algérienne. Donc, tout le monde est d'origine étrangère, mais les deux parents, qui sont donc nés en France, ont choisi des stratégies un peu différentes par rapport à leurs enfants. Et donc, ça me permettait, moi, dans la fiction, d'explorer aussi deux choses différentes. Et tant qu'à faire, comme je trouve que dans notre rapport avec l'Algérie, dans le rapport de la France avec l'Algérie, il y a beaucoup de silence encore aujourd'hui. Ça m'intéressait bien de mettre le silence de ce côté-là. Alors que dans l'aspect passé juif de la famille côté paternel, il y a une parole qui est clairement assumée. Les grands-parents racontent, et c'est présent dans le roman, racontent leur histoire aux petits-enfants.
Après quelques années de silence, pour ne pas dire après quelques décennies de silence, là aussi. Hein.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, comme souvent, quand les gens vivent des choses comme ça très traumatisantes, ça prend quand même un certain temps avant de pouvoir en parler. Et notamment, ça prend souvent une génération. C'est-à-dire que... Les petits-enfants de ceux qui ont survécu à la Shoah sont beaucoup plus au courant que les enfants eux-mêmes, souvent, hein, parce que on a voulu préserver ces enfants et que les petits-enfants, bon, s'il y a une distance qui s'est créée, il y a aussi une réinstallation dans la vie qui a pu se faire, donc ça devient moins compliqué peut-être pour parler, enfin, la parole avec le temps se délie, dans l'histoire aussi, c'est-à-dire que il suffit de voir, par exemple, que la Shoah s'est rentrée dans les programmes scolaires dans les années 60, à la fin des années 60, début des années 70, que pendant un certain temps, ça n'y était pas. Donc, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que si la société se met à parler de quelque chose, éventuellement, dans la sphère intime, ça suit le mouvement. A priori, la guerre d'Algérie, par exemple, c'est pas quelque chose dont on parle encore énormément. Donc, j'imagine que dans les familles, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pas très... C'est pas vraiment transmis, quoi. Il y a quelque chose qui s'est pas libéré dans la parole à ce niveau-là.
Et avant que cette famille, les Herbé, cette famille française, ne soit perçue comme une famille de métèques, ce que vous révélez au fil de l'histoire et des révélations en ce qui concerne les origines de la mère, notamment, c'est un rejet des enfants eux-mêmes. C'est-à-dire les enfants eux-mêmes vont être choqués de savoir qu'ils sont un peu d'origine arabe.
Bah oui, c'est-à-dire qu'ils ont bien assimilé
le racisme,
ouais. L'oppression. C'est-à-dire que voilà, comme le dit, je crois c'est Isolde à la sortie, apprendre à 15 ans qu'on est 50% rebeu. Merci maman. Bah oui, c'est-à-dire qu'ils n'en savent tellement rien que ils sont totalement dans, je dirais, l'espèce de courant. que moi je trouve actuel, c'est-à-dire quelque chose où, où il fait pas bon du tout être originaire du Maghreb en France.
Est-ce que ce roman, est-ce que les métèques Denis Lachaud jouent aussi sur ce paradoxe? Il y a 20 ans, on imposait, on sommait les Français d'origine étrangère à oublier leurs racines, à essayer de franciser leur nom, à s'intégrer, pour reprendre ce mot qui hélas toujours à la mode et qu'aujourd'hui ça risque de s'inverser. C'était ça le ressort narratif de votre histoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette idée?
Notamment, oui, parce que j'ai appris en assistant à un colloque un jour, un colloque sur le nom, que dans les années 70, la loi française avait été simplifiée pour permettre, pour faciliter en fait ce mouvement, c'est-à-dire la francisation de noms, et que même pour ceux qui étaient de la génération suivante et qui tentaient de récupérer le patronyme d'origine pour en fait faire marche arrière par rapport à cet effacement des racines, ça leur était refusé, c'est-à-dire que le Conseil d'État le refuse. On ne peut pas abandonner un nom à consonance dite française pour revenir à un nom à consonance dite étrangère, même si en droit ça ne veut strictement rien dire. Donc oui, tout à fait, c'était une des inspirations, une des choses en fait qui sont venues nourrir le projet, parce que quand je commence moi à écrire, j'ai juste un fil et je tire et puis j'observe, j'écoute et je cherche aussi dans ma mémoire tout ce qui peut venir nourrir en fait le projet et faire que le fil soit solide et ne casse pas avant la fin.
Sauf que votre histoire, les métèques, Denis Lachaud, se passe dans la ville la plus cosmopolite, parce que c'est un port, parce que c'est Marseille.
Oui, c'est vrai, c'est une ville très très cosmopolite. Il y a quelque chose. Moi, Marseille, je suis fasciné par cette ville et en même temps, j'ai du mal à la saisir vraiment. C'est une ville complexe. Hein. Il suffit, je pense, de monter à la Bonne Mère et de regarder, ne serait-ce que le plan de la ville, pour comprendre que c'est vraiment complexe. Après, même la sociologie de la ville est très compliquée et c'est très cosmopolite. Donc, il y a quelque chose qui, moi, m'est très très agréable et en même temps, quand on regarde les résultats d'élections, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quand même un fort taux de vote extrême droite à Marseille comme sur toute la côte, quoi. J'essaye d'explorer, moi, ces choses-là du côté de l'histoire des gens, c'est-à-dire en créant des personnages et en les faisant se mouvoir dans le monde qui me semble être le nôtre. Maintenant, je vais pas jusqu'à les expliquer. Hein.
Parlez-nous du narrateur Célestin, parce que c'est lui qui va nous accompagner, c'est lui qui va échapper à la violence qui va s'abattre sur cette ville et plus particulièrement sur sa famille.
Célestin, donc, il a 20 ans quand ça commence et il a vécu une vie tranquille jusque-là. C'est quelqu'un d'assez réservé et en même temps d'assez sûr de lui. Comme vous le disiez tout à l'heure, il fait 2 mètres, donc... Il s'impose, on va dire, par sa silhouette déjà. Donc, au moment où ça arrive, il est un peu, on va dire, sorti de ses rails de tranquillité. Il est en train de se construire une petite vie entre l'université, la plage, le soleil. Parce que c'est une famille qui est descendue à Marseille quelques années plus tôt. Donc, il a connu autre chose. Et donc, c'est quelqu'un qui apprécie vraiment de vivre là. Et comme je le disais tout à l'heure, il perd son sentiment de sécurité avec cette convocation et il sent que les choses vont mal tourner. Enfin, en tout cas, il le pense. Ça va être confirmé assez rapidement d'ailleurs. Ça va lui être confirmé rapidement. Et c'est quelqu'un qui après bascule dans la survie. C'est-à-dire que la vie et la survie, c'est deux choses différentes.
Cavale, survie, il va se retrouver dans une forêt où ses grands-parents paternels avaient déjà fui un régime nazi.
Oui, ces deux grands-parents, l'un comme l'autre, avaient passé leurs premières années près d'une forêt, l'un en Allemagne, l'autre en Pologne. Et quand ils sont venus, les deux familles sont venues pour fuir le nazisme, ils se sont installés en France au milieu de forêts aussi, une famille dans la Creuse et l'autre près de les Landes de Gascogne. Ils ont fui quand les rafles de 42 réclamées par Laval se sont développées et réfugiés dans les forêts puisque c'était leur milieu naturel d'une certaine manière. C'est même là qu'ils se rencontrent ils ont 10 et 12 ans, en fait, quand ils s'enfuient et ils se rencontrent en forêt. Donc il y a quelque chose comme ça qui lui est transmis, puisque ses grands-parents lui parlent beaucoup.
Il lui raconte des histoires, voilà, d'ailleurs.
Il lui raconte beaucoup, lui parle beaucoup de ces années-là, de leurs années de forêt, puisqu'ils sont rentrés dans la forêt en 42, ils en sortent en 49. Donc 4 ans après la fin de la guerre, ignorant, tellement ils étaient vraiment planqués, ignorant que ça faisait 4 ans que la guerre était terminée. Et donc ces années de forêt, c'est évidemment quelque chose, on imagine, de très fondateur chez eux. Et il lui en parle beaucoup. Et je pense que, comme tout enfant, c'est un buvard. Et donc il absorbe vraiment énormément d'informations sur cette situation de survie, cette situation de vie au jour le jour, où l'esprit est occupé par les besoins les plus élémentaires, les plus nécessaires. Filtrer son eau, chasser, ramasser des plantes, faire du feu, enfin des choses, c'est
mais surtout, là. Mais surtout, se cacher.
Se cacher, bien sûr, ouais.
Bon, mais le fait qu'il se retrouve dans la même forêt que ses grands-parents, dans cette même configuration, plutôt que ses grands-parents, c'est pour mieux souligner que l'histoire se répète.
Oui, puis je souhaitais aussi que, au moment de se retrouver en situation de survie, il soit pas complètement dérouté, c'est-à-dire qu'il ait quelque chose où qu'il ait reçu une certaine formation et que on puisse le voir quand même bouger, c'est-à-dire réagir et pas rester comme un lapin dans les phares, quoi.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
Avec ce matin Denis Lachaud pour son dernier roman publié chez Actes Sud, Les Métèques. Et la chanson qui va avec, c'est bien sûr Le Voilà Voilà de Rachid Taha. Cours.
Bonjour Tufik.
C'est toujours un plaisir de vous avoir, d'autant plus que là vous allez nous conseiller quelques livres à emporter cet été avec nous.
Oui, absolument. Et justement, en écoutant religieusement Denis Lachaud, je pensais à un des livres dont je voulais vous parler, qui s'appelle « Retour à Lemberg » de Philippe Sands. Parce que je crois que, Denis Lachaud, vous avez le point commun avec Philippe Sands de réfléchir à la filiation et à ce qu'on découvre, comme vous le dites, comment les petits-enfants peuvent aller déterrer le secret des grands-parents. Cette théorie, finalement, qui était très présente et un peu formulé par deux psychanalystes que j'aime beaucoup, Nicolas Abraham et Maria Torok, qui parlaient d'une théorie du fantôme. Et donc finalement, les grands-parents transmettent directement aux petits-enfants non seulement ce qu'ils n'ont pas réussi à dire à leurs propres enfants, mais aussi leur honte, leur gêne, leur, comme vous disiez, la honte, par exemple, d'origine, comme vous en parliez.
Dans les métèques, donc, qui vient de paraître chez Actes Sud, de Denis Lachaud. Donc ça, c'est pour Philippe Sands, Retour à Lemberg. C'est chez Albin Michel.
Voilà, alors Philippe Sands, Retour à Lemberg, lui, ça, ce n'est pas des origines maghrébines, mais c'est l'histoire de son grand-père, qui est juif, qui vient de Lemberg. Lemberg, c'est le nom allemand de Lviv, qui est donc cette ville aujourd'hui en Ukraine, qui était une grande ville polonaise dans les années 30. Et donc, il va sur les traces de son grand-père, qui était à Lviv, qui s'est enfui en 39 et qui est arrivé à Paris, ce grand-père qu'il a connu après-guerre, qui était toujours très taiseux, qui ne racontait rien. Et donc, c'est après sa mort que lui, Philippe Sands, grande figure du barreau, qui est une grande figure du droit international. Philippe Sands, il a été à la Cour internationale du Rwanda, il a été à la Cour internationale de Bosnie, il a beaucoup réfléchi, vous voyez, aux termes de génocide, de crimes contre l'humanité, termes qui ont été forgés donc en 1945 à Nuremberg. Et donc, en allant sur les traces de son grand-père, il découvre non seulement quelle a été la destinée de sa famille, mais aussi que dans cette ville ont vécu, au même moment que son grand-père, les deux inventeurs des termes de crimes contre l'humanité et génocide, qui sont Lemkin et Lauterpacht, qui ont été les deux grands professeurs de droit constitutionnel qui ont créé ces concepts de génocide et crimes contre l'humanité qui ont été au cœur du tribunal de Nuremberg.
Retour à Nuremberg, c'est chez Albin Michel de Philippe Sands. Deuxième roman proposé par le magazine Transfuge pour cet été, Roberto Calasso.
Oui, alors c'était difficile évidemment de choisir, mais Roberto Calasso, c'est un essai, enfin c'est entre l'essai et la fiction, et c'est une réflexion, ça s'appelle l'innommable présent, non seulement sur aujourd'hui, mais, et là aussi Denis Lachaud, ça va vous intéresser, sur la manière comment notre époque répond aux années 30. Et donc il prend différentes journées des années 30 avec différentes figures d'intellectuels, d'hommes politiques, d'intellectuels qui se sont fourvoyés aussi, comme Drieu-La Rochelle. Et il s'interroge en revenant sur leurs textes, sur leurs lettres, sur leurs journaux, sur le pourquoi est-ce qu'ils ont basculé d'un côté ou de l'autre, du bon ou du mauvais côté, pourquoi est-ce qu'ils ont été à un moment fascinés par le nazisme. On découvre par exemple que André Gide a été dans son journal fasciné par la figure d'Hitler. Ensuite, il s'est repris, mais il y a eu un moment où cette Allemagne nazie, cette Allemagne puissante a fasciné André Gide. Donc voilà, ces différentes figures d'intellectuels, il revient sur différents moments. Vous voyez, c'est un livre fragmenté, absolument passionnant pour comprendre l'époque, mais aussi pour comprendre notre présent.
L'innommable actuel de Roberto Calasso, c'est chez Gallimard. Et puis enfin, pour terminer, un inédit de Sylvia Plath.
Oui, alors un inédit de Sylvia Plath qui est un court texte, Marie Ventura, qui est une nouvelle, mais où il y a déjà tout ce qu'on retrouvera dans La Cloche fêlée et puis dans ses somptueux poèmes réunis dans Ariel.
C'est édité par la Table Ronde.
Absolument, cette mélancolie, ce désir d'écrire, ce désir de création qui est pour elle un désir de survie et qu'on retrouve dans ce personnage de Marie Ventura qu'on prend dans un train et puis on la suit dans ce train. Et ce train, on ne sait s'il l'emmène vers sa rédemption ou au contraire vers sa chute.
Marie Ventura et le 9e royaume de Sylvia Plath, c'est édité par la Table Ronde. Auriane Joncourt du magazine Transfuge nous a fait donc sa sélection de livres, et pourtant la couverture du numéro d'été de Transfuge, eh ben c'est un homme de théâtre, Eric Ruff.
Oui, parce que l'été, c'est une saison de théâtre. Il y a Avignon, et d'ailleurs, on a fait un dossier sur Avignon. Et Eric Ruff, parce que, justement, il monte Brecht, auteur passionnant à relire aujourd'hui, notamment cette dernière pièce, La vie de Galilée, qui est un événement du mois de juin, qui sera un événement de la rentrée, qu'il monte à la Comédie Française, et voilà, qui nous fait réfléchir sur la science, la place de l'intellectuel, justement, et les folies du progrès.
Et il ne nous a pas échappé que Denis Lachaud, notre invité écrivain d'aujourd'hui, est aussi un homme de théâtre, ou d'abord un homme de théâtre.
Oui, c'est de là que je viens, en effet.
Ouais. Et vous êtes danseur aussi, à vos heures perdues?
Oui, ça, c'est vraiment à mes heures perdues, et c'est très conjoncturel. J'ai fait le festival Concordance cette année, et donc j'ai travaillé avec le chorégraphe Amal Adianor. Mais je pense que même si on va redanser notre duo l'année prochaine, après, ça s'arrêtera là.
Voilà, la danse, c'est très physique. Le théâtre, c'est en public. Qu'est-ce que vous trouvez dans la littérature que vous ne pouvez pas exprimer au théâtre, par exemple?
Je trouve surtout le fait que c'est plus dans ma nature d'être chez moi devant mon ordinateur pour écrire que d'être sur une scène face à un public. Ça m'a pris du temps pour m'en apercevoir, mais même si j'aime beaucoup me produire sur une scène, j'ai vraiment des grands moments de découragement quand je travaille, surtout en répétition en fait. Alors que dans l'écriture, jamais. Je suis jamais découragé.
Bon, mais vous allez à Avignon pour autant.
Oui. J'ai une pièce qui se joue, La Magie Lente, mise en scène par Pierre Note au Théâtre Artéphile, et deux autres qui seront lues. Une qui est, que je viens de finir d'écrire, qui sera aussi mise en scène par Pierre Note et qui s'appelle Jubilé. Et l'autre qui s'appelle Ma Forêt Fantôme, qui sera mise en scène par Vincent Dussard. Et ça, c'est une pièce qui a 20 ans, que j'avais montée moi il y a presque 20 ans.
Merci, bel été à vous. Merci beaucoup d'être passé, Denis Lachaud. Bel été aussi à vous, Auriane Jeancourt.
Mais à vous aussi, Toufik.
On se retrouve en septembre, j'espère.
Avec plaisir.
Belle matinée sur France Culture.